À partir de ce verset 17 du chapitre 5, le Seigneur envisage donc le rapport des croyants avec la loi. Il vient nous dire tout d'abord que la loi est bonne. Il ne met pas la loi de côté. Parce que la loi est l'expression de la volonté de Dieu. Accomplir la loi ne sauve pas. On n'acquiert pas par l'accomplissement de la loi de quelque chose pour notre salut. Mais cela reste ce qui est bon. Et même le Seigneur, dans ses propos, va aller au-delà de ce que dit la loi. Parce que dans tous ces chapitres, le Seigneur part de l'action, de ce que l'on fait, et puis il remonte à la source. Il remonte à la source et il remonte à l'idée, au sentiment qu'il y a en nous, à la pensée qui est souvent une pensée mauvaise, une pensée que personne ne voit sinon Dieu. Et le Seigneur remonte à cela, on le voit particulièrement au verset 28, quand quiconque regarde une femme a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Il y a la pensée que personne ne voit qui est là et qui par contre est jugée par Dieu et qui dans la lumière de Dieu est évidente. Alors donc le Seigneur à plusieurs reprises nous dit « Vous avez oui qu'il a été dit » et il revient sur cette pensée « Vous avez oui qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Certains commentateurs ont dit que le Seigneur se plaçait au même niveau que Dieu énonçant la loi. Mais nous avons dit la dernière fois que le Seigneur s'attache à ramener à la véritable loi, à ce que Dieu a dit, parce que beaucoup de choses ont été rajoutées. Beaucoup de commentaires ont été rajoutés par les anciens, par ceux qui ont fait des commentaires de la loi. Et par exemple, en Exode 20, on trouve « tu ne tueras pas ». Et puis c'est tout. « Quiconque tuera sera passible du jugement, ne fait pas partie du décalogue ». Le Seigneur nous montre donc qu'il y a ce qu'est la loi de Dieu, il y revient. Et puis, en plus donc, tout ce qui est... Tous ces sentiments que nous pouvons avoir, qui sont beaucoup moins violents, en particulier la colère que nous avons évoquée et que nous avons commencé à lire dans ce chapitre. Mais ce qui est important, c'est de voir que cette parole que nous avons sous les yeux, c'est une parole vivante, opérante, pénétrante, discernant. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et donc le Seigneur veut aller jusque-là. Il veut aller, par ces textes qu'il nous met sous nos yeux là, il veut aller dans nos pensées et nos intentions pour les mettre à nu devant lui. Et pour que cela nous permette d'être devant lui dans cette humilité que nous avons besoin d'avoir devant Dieu. Alors nous avions déjà un peu évoqué ce paragraphe qui commence au verset 21. Donc le problème de la colère, il y a quand même des colères qui... « Mettez-vous en colère et ne péchez pas », nous dit une autre partie de l'Écriture. Nous savons aussi que le Seigneur a regardé avec colère ces commerçants qui avaient envahi le temple et leur commerce quasi illégal. Et puis ce problème, si ton frère a quelque chose contre toi, ce problème de la rancœur, de la réminiscence, de ce souvenir que nous avons qu'il y a un conflit qui est peut-être pas évident, mais qui est là, qui est larvé, qui est là-dessous, avec un frère. Et puis, nous venons au culte, et puis ce conflit n'est pas réglé. Il y a cette profonde divergence qui est entre nous. Eh bien, le Seigneur dit, ben non, tu es là, tu viens offrir la louange, tu t'approches de Dieu le dimanche matin, tu viens au local, mais attention, parce que c'est pas bon pour toi. Et tu devrais retourner voir ton frère, régler ton problème, et puis revenir pour rendre le culte que Dieu attend de toi. Des choses pratiques de la vie, mets-toi, va voir ton frère, mets-toi d'accord avec lui. Et puis, cette exhortation aussi à se mettre en accord avec la partie adverse, nous voyons la signification morale, en particulier quand Paul dit que nous sommes ambassadeurs, nous supplions pour Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ce travail de réconciliation, la partie adverse. Nous savons que tous les hommes sont par nature en conflit avec Dieu, un homme non sauvé, non converti, est en conflit avec Dieu et tombe sous le jugement de Dieu, eh bien, il y a les croyants qui sont là et qui lui disent, attention, il y a, mets-toi, réconcilie-toi avec Dieu, réconciliez-vous avec Dieu, parce que Dieu a fait ce qui était bon pour que tu sois réconcilié. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait péché pour nous. Le problème du péché est réglé, mais il faut que tu te mettes d'accord avec Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu iras en prison, le jugement sera ta part.
On trouve cette expression couramment dans le monde, des gens qui disent, moi, de toute façon, je suis clair, je n'ai rien contre personne. Mais on voit ici comment la preuve est inversée. Ce n'est pas le problème d'avoir quelque chose contre ton frère, c'est si ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire, est-ce que je ne serais pas pour mon frère un objet de contentieux, quelqu'un qui encore lui doive quelque chose? On voit comment la parole vient sonder nos cœurs. Il ne s'agit pas seulement de rien avoir contre les autres, mais de penser que les autres peuvent avoir contre nous des choses qui nous sont quelquefois inconnues et qui peut être nécessaire de régler. Nous sentons combien nous sommes sondés.
Dans 1 Corinthiens 11, où l'apôtre dit que chacun s'éprouve soi-même, si tu penses que quelqu'un a quelque chose contre toi, ou alors que toi, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Dans Corinthiens, c'est plutôt qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas bien. Mais ça fait aussi partie de s'éprouver soi-même, voir si quelqu'un a quelque chose contre nous.
Et en 1 Corinthiens 11, c'est sans doute un petit peu la même chose. Est-ce que Dieu aurait encore quelque chose contre moi? Non pas qu'il ait quelque chose contre moi, parce que je suis pardonné d'une manière définitive, mais est-ce que dans ma vie pratique, il n'y aurait pas des choses qui seraient encore à revoir? Sentons combien nous sommes sondés par cela aussi. On peut dire, mais tout va bien. C'est un grand problème quand on pense que tout va bien, finalement, dans nos relations avec Dieu, et qu'on ne se pose pas de questions. C'est là le problème. C'est pourquoi il est dit en 1 Corinthiens 11 que chacun s'éprouve soi-même, qu'on ait ce regard critique sur soi. C'est pas évident. On trouve là un des grands principes du royaume des cieux qui est, plutôt que de s'occuper des autres, de s'occuper de soi-même. On trouve un peu la même chose dans le psaume 139, où on a quelqu'un qui s'interroge sur la vie sociale, d'abord sur ce qu'il est, et puis vers la fin du psaume, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même placé devant des gens qui sont difficiles. Au verset 19 du psaume 139, « Ô Dieu, si tu voulais tuer le méchant, vous, homme de sang, retirez-vous de moi. N'ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent ?» On sent que c'est quelqu'un qui est amené à souffrir de son environnement. Et quelle est la conclusion du psaume? Au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » C'est-à-dire, les autres, c'est vraiment leur affaire, c'est leur responsabilité, mais pour moi, j'ai à me placer devant Dieu. On sent combien il y a là quelque chose qui rejoint l'enseignement que nous avons ici et qui est toujours d'une pratique difficile, mais qui est l'enseignement constant du Seigneur. On retrouve cela dans l'évangile de Matthieu, un petit peu plus loin, en particulier au chapitre 18. Ce qui est intéressant, ça a été souvent remarqué, c'est de voir que ce sont des choses dans lesquelles il y a eu une gradation. On commence par se mettre en colère légèrement, et puis si on ne s'arrête pas, on dit raca, et puis on dit fou, etc. Et on voit la démarche spirituelle qui nous est donnée par le Seigneur. C'est, en résumé, ne te laisse pas aller à ce qui pourrait être pour toi quelque chose qui pourrait te conduire dans une démarche qui serait contraire à la pensée de Dieu. On retrouve exactement la même chose dans les versets 27 à 32, de la même manière. Nous sommes mis en garde contre une démarche qui serait une démarche de trop grande liberté par rapport à ce que nous pensons pouvoir faire. Et le Seigneur dit, attention, là, il faut prendre garde à ci, prendre garde à cela.
On appelle l'escalade.
Le but de tous ces paragraphes, ce n'est pas de nous ficeler, c'est de nous amener à la liberté. Cette liberté, c'est celle qui est évoquée au verset 45. Que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur vient montrer que la loi en elle-même n'est pas négative, contrairement à ce que pensaient les Juifs. Et même à sa formulation relativement négative, telle qu'elle a été donnée à Moïse. La loi est une protection. Le désir de Dieu de nous élever, dans nos pensées. C'est pour ça que, comme l'a dit Jean-Louis, tout ce qui est signalé ici, c'est qu'on va au motif profond de l'être humain. Il n'y a pas besoin d'avoir tué quelqu'un physiquement pour être un assassin. Il n'y a pas besoin d'avoir commis adultère. Le texte est très clair. Il faut quand même peut-être préciser, je vous dis que quiconque regarde une femme, il est bien ajouté pour la convoiter. C'est pas n'importe quel regard. C'est pas un regard anodin. C'est un regard qui porte déjà en lui-même un désir pervers. Eh bien, le Seigneur vient nous dire, il serait plus avantageux pour vous d'arracher votre œil ou votre main ou ceci ou cela. Certains chrétiens, notamment au premier siècle de l'histoire de l'Église, ont réalisé ces versets à la lettre, se sont mutilés, c'est pas le sens du texte. On a peut-être, nous, aujourd'hui, tendance à passer un peu vite dessus en disant « Oui, mais bon, c'est un peu difficile tout cela. » C'est la mortification de la chair qui ne peut se faire que par la puissance de l'Esprit. La sanctification est quelque chose qui n'est pas négatif, au contraire, c'est quelque chose de positif. Ce que le Seigneur cherche à développer dans ces versets, je le répète, c'est ce désir d'obéissance qui provoque une véritable liberté, la liberté d'enfant de Dieu. Ce n'est pas du tout une nouvelle règle, ce n'est pas une nouvelle loi. C'est un état d'esprit, l'esprit avant la lettre. Mais c'est vrai que l'esprit ne peut s'incarner que dans une forme. Et nous nous attachons aux formes, et nous avons tous nos petites règles, qu'elles nous tenons beaucoup, qui sont un peu comme des béquilles. On croit que cela nous aide à marcher, et en fait, ça nous empêche de courir.
Ce qu'on a au verset 23 est toujours d'une très grande actualité. Et on sait par expérience combien la non-réalisation de ce qui est enseigné ici a fait des dégâts dans les croyants, parmi les croyants, parmi les assemblées. Alors Jean-Louis disait tout à l'heure que on se fait du tort à soi-même, bien sûr, c'est la première chose, on se fait du tort à soi-même, mais je crois que quand il y a des choses semblables dans un rassemblement, on fait du tort à l'ensemble, non seulement à soi-même, mais à l'ensemble, peut-être même sans vraiment s'en rendre compte, et on pourrait peut-être dire « Oh, ben ça c'est quelque chose qui est entre moi et mon frère, ça ne regarde personne. » Et je crois qu'on se trompe énormément, et cela s'est vu, et combien nous avons ainsi à veiller à ce qui nous est dit là.
Dans l'ensemble de ces versets, du verset 21 au verset 37, les trois grands liens, si l'on peut dire, qui ficellent les hommes. Pour revenir à la pensée de Daniel, tout à l'heure, où « Seigneur veut notre liberté », on a la violence, la colère qui tient les hommes. On sent combien, on le voit ça dans l'humanité, des gens sont ficelés par leur colère, par leur inimitié. Mais véritablement, des gens qui s'en veulent les uns aux autres, et ça devient un état, une préoccupation de l'esprit qui fait que ce sont des gens qui véritablement sont esclaves. Et nous risquons de l'être aussi d'une inimitié quelconque. On a un deuxième lien, lien illégitime en matière de relations entre hommes et femmes, qui est évoqué du verset 27 au verset 32. Et on sait combien dans l'humanité aussi ce genre de choses ficelle les hommes et conduit à des situations difficiles. Combien nous risquons aussi d'être pris par cela. Et enfin, du verset 33 au verset 37, on a un autre lien, ce sont les engagements que les hommes prennent, les serments. Un serment fait, il faut le tenir. Et nous sommes mis en garde contre le fait de faire des serments de manière inconsidérée. Faites attention, vous ne disposez pas du lendemain. Voilà les trois grands sujets qui sont placés devant nous en matière de choses négatives, si on veut dire. Faites attention à ci, faites attention à cela, etc. Après, on trouvera, à partir du verset 39, davantage de choses positives, c'est-à-dire faire le bien.
L'apôtre Paul reprend cet enseignement en Romains 6. Ce problème du péché qui domine et en Romains 6, 12, que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel. pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, comme instrument de justice. Vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et on trouve ainsi cette liberté des enfants de Dieu. Vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Le péché ne dominera pas sur vous. Mais si, effectivement, vous laissez agir, parce que c'est l'apôtre Jacques qui nous dit qu'il y a une escalade. On évoquait tout à l'heure l'escalade. On la trouve en Jacques au chapitre 1er, au verset 14. Alors, chacun est tenté, étant attiré, amorcé par sa propre convoitise. On voit.